I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
Bonjour Judith et Déborah.
Bonjour Mathieu.
La semaine dernière, j'avais réuni trois des plus gros fans d'horreur de la rédac pour parler de biopics musicaux, parce que bah pourquoi pas. Nous avions discuté des biopics Wikipédia, des bons biopics, des mauvais biopics. Conclusion, ces derniers sont beaucoup plus nombreux. Mais il nous reste à réfléchir au sujet chaud, la mode actuelle pour le genre, qui est devenue une sorte de solution de sûreté parfois pour les majors. Back to Black, One Love, Judy, Maestro, Elvis, Respect, c'est un véritable raz-de-marée dont l'épicentre est sans aucun doute Bohemian Rhapsody, soit le film qui a prouvé une bonne fois pour toutes que les Oscars, et bah c'est quand même un beau ramassis de conneries. Et si on commençait par là donc, le cas Bohemian Rhapsody, un peu un cas d'école.
Ouais, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de biopics avant qui avaient déjà une forme agaçante que Bohemian Rhapsody a repris, mais par contre c'est vrai que ça a été le moment où en fait on n'en est plus sorti quoi, où vraiment ça a déclenché la marvelisation des biopics musicaux.
Ouais, c'est, je pense que le terme est...
En même temps, le film, c'est un peu un conte de fées pour producteurs. Enfin, en quelques chiffres, il a coûté à peu près 50 millions de dollars de budget hors marketing, ce qui n'est pas non plus énorme, mais c'est dans la moyenne un petit peu haute des biopics de ce genre. Il en a rapporté 910 millions au box-office mondial. Donc évidemment que ça a créé quelque chose. Dès qu'il y a du chiffre, c'est le meilleur moyen de créer quelque chose à Hollywood.
Ah, mais j'avais pas...
Ah si si si,
ah
hein,
ouais,
c'est le plus gros biopic de l'histoire, et si j'ai pas de bêtises, c'est un des plus gros drames de l'histoire du cinéma mondial. Hein. Enfin, je pense qu'il y a rien qui a été aussi long.
Un biopic musical, bah ouais.
Oh ouais, non, il a vraiment classé le...
À 910 millions, je vois vraiment pas qui peut être au-dessus, donc on va établir que c'est un record. Il y a quand même eu 4 Oscars, dont un pour Rami Malek, il y en a un aussi pour le meilleur montage, on y reviendra, mais what the fuck.
Celui du montage est encore plus scandaleux que celui de l'acting, parce que là, vraiment...
Et il a quand même remporté 4 Oscars sur 5 nominations.
C'était quoi là,
Je crois que c'est le meilleur film. Je crois que c'est celui il a pas eu le meilleur film quand même, parce que quand même,
heureusement.
Oh, franchement, après Green Book, ils auraient pu le faire, tu vois.
J'avoue.
Tout est possible. Il y a plus de.
Et ça aurait, si le film était bien, ça aurait presque pu être une bonne histoire, parce que une belle histoire, parce que le film, bah, il était dans l'enfer de développement, le development hell, comme on dit en anglais. Il a mis presque 10 ans à se faire. Genre, il a changé plusieurs fois de réalisateur. Rami Malek, au départ, ça devait être Sacha Baron Cohen qui interprétait Freddie Mercury. Après, ça devait être Ben Whishaw. Enfin, voilà.
Ben Whishaw.
Ouais. Toi, tu te plains de Rami Malek.
Non mais,
finalement.
J'ai rien contre Ben Whishaw, mais là, ouais, on est vraiment.
Oui, sur les origines du personnage, c'est un petit problématique. Oh. Mais oui, donc forcément, avec une telle somme, évidemment que ça a créé quelque chose. Alors, d'un côté, c'est le super conte de fées pour producteurs, j'aime bien appeler ça comme ça. D'un autre côté, c'est un enfer pour les fans et pour le public, parce que quand même, ce film, ça cristallise, je pense, tous les défauts inhérents au biopic.
Ah ouais, là, tout y est. Bah d'ailleurs, dès la production, le truc est présent, puisque l'une des raisons pour lesquelles Sacha Baron Cohen l'a pas fait, finalement, c'est parce que lui, il voulait vraiment se focaliser sur Freddie Mercury... On sait pas exactement ce qu'il voulait faire, mais je suppose que c'était plus sombre. Et les autres membres du groupe n'auraient pas été d'accord avec cette approche, et c'est pour ça qu'il est parti en bon terme. Hein. C'est ce qu'il disait.
Ouais, après, il a un petit peu changé d'avis en 2016. Ouais. Bah, il a quitté le projet en 2013. justement en invoquant les sacro-saintes différents créatifs. Et ensuite, en 2016, il l'a un petit peu plus ouvert en disant que bah, clairement, les membres de Queen qui sont derrière en collaboration et à la production voulaient faire une espèce de film familial sur la vie de Freddie Mercury et en gros aussi ramener la lumière sur eux, vraiment traiter Queen plus que Freddie Mercury. Mmh. Alors que Sacha Baron Cohen, lui, voulait faire un film sur une rockstar gay, qui forcément, par définition, est incompatible avec le film familial.
Bah oui, oui, surtout d'ailleurs, si tu parles de l'homosexualité dans ces époques-là, en plus, avec du coup le sida qui a emporté Freddie Mercury, toute l'horreur que ça a été,
Et d'ailleurs, le film est PG-13, ce que je trouve assez sidérant quand même
Pour un biopic,
pour un biopic sur Freddie Mercury, quoi.
Oui, voilà. Ouais.
Alors que Rocketman est classé R, on a halluciné en voyant ça.
Ouais, bah justement, parce que justement, mais ça c'est, je pense qu'en fait on peut vraiment comparer Bohemian Rhapsody à Rocketman déjà parce que Rocketman est né en fait dans le sillon de Bohemian Rhapsody. Il a été fait parce que Bohemian Rhapsody a fonctionné et surtout Rocketman a entre guillemets le courage de faire tout ce que n'a pas fait Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire assumer de qui il parle. Mmh. Et là, en fait, Bohemian Rhapsody, c'est quand même assez fou à quel point le film n'assume pas la bisexualité de son personnage, enfin, de Freddie Mercury. C'est quand même assez hallucinant que toutes les scènes d'amour ou de sexe qu'il partage, ce soit donc avec sa première compagne, qui effectivement, avec qui il a été marié, qui a occupé une place très importante dans sa vie. Mais en comparaison, on fait le choix, par exemple, sur le compagnon qui l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie, avec qui il avait une relation d'amour, de tendresse et tout ça. Ah, ça, c'est un carton, à la fin.
Ouais.
Voilà, tu le vois, je crois qu'il y a un carton, ils ont un petit chaton dans les bras et c'est en mode, ils ont vécu une belle relation d'amour tous les deux jusqu'à la fin de leur vie. Bam, tu le verras jamais dans le film.
Ah ouais, surtout, tu le représentes pas, quoi.
Oui, voilà, c'est comme Freddie Mercury qui se drogue. Tu ne le vois pas se droguer. Tu as un plan sur une table où tu vois qu'il y a des traces de coke, mais tu ne le vois jamais prendre la coke. Mmh. En fait, c'est un film très lâche, en fait, dans ce qu'il voudrait raconter, mais qu'il ne s'autorise pas à raconter, tu ne sais pas.
On dirait vraiment les règles du Codeïs, où genre, t'as le droit de montrer un corps dénudé, mais à tel nombre de centimètres.
C'est le drap, genre, juste à la naissance.
Ouais, c'est ça.
Ça n'a pas changé, hein. C'est comme le nombre de fuck ou ce genre de choses.
Oui.
Pourquoi, en fait, tu vois. Et je pense d'ailleurs que cette histoire de on le voit jamais vraiment sniffer une ligne, quoi. C'est très en rapport avec le classement PG-13. À mon humble avis, le board, comme on dit, les gens qui ratifient les films, qui leur donnent leur certificat pour qu'ils puissent avoir le classement, ils font la distinction entre on voit qu'il y a eu consommation de drogue et on le voit consommer de la drogue, quoi.
Mais ça, à la rigueur. Mais sur le traitement de la sexualité de Freddie Mercury, il y a vraiment ce truc un peu schizophrène où, il était bisexuel, ça a été une grosse partie de sa vie à partir du moment où il a décidé de l'assumer, en tout cas dans son cercle privé. Mais le film s'y refuse tellement, à chaque fois on voit genre des bisous, et des bisous, en plus le premier, Freddie Mercury il est pas trop ok et tout, il dit carrément « je pense que tu sais pas trop qui je suis » et tout ça, enfin c'est clairement pas vraiment assumé. Et puis surtout, ses relations avec les hommes égale déchéance et sa relation avec les femmes égale normalité.
Stabilité.
Oui, voilà, stabilité, normalité, le vrai amour, c'est là, c'est la femme, c'est sa meilleure amie qui l'a accompagnée jusqu'au bout et tout ça. Par contre, les hommes, c'est déchéance, c'est drogue, c'est alcool, c'est mauvaise fréquentation, c'est le manager toxique qui va l'entraîner dans les bas-fonds, comme si en fait toute la partie plus sombre, tragique et dramatique de Freddie Mercury, en fait, était incarnée par un autre personnage.
Oui.
Un personnage, lui, qui est ouvertement gay, contrairement à Freddie Mercury, et qui va porter, en fait, le poids, en fait, de tous ses fardeaux à la place de Freddie Mercury, qui, du coup, reste, en comparaison, une figure beaucoup plus lisse et pratique, en fait, à vendre pour le grand public.
Oui, alors, du coup, c'est vrai que pourtant, Rocketman n'est pas non plus extrêmement rock'n'roll dans son approche, mais malgré tout, quand même, c'est vrai qu'on... Parce que, mais du coup, je pense que, tu vois, en fait, le truc de Bohemian Rhapsody, c'est que je pense, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a tellement bien marché, c'est que je pense qu'il s'adresse pas du tout aux fans de Queen, et je pense qu'il s'adresse à la très large majorité des gens qui aiment entendre Bohemian Rhapsody à la radio, mais qui, en fait, qui ont juste envie qu'on leur rechante deux, trois notes qu'ils ou elles aiment, et d'avoir, voilà, cette espèce de représentation très facile d'accès que va être cette espèce de Freddie Mercury de grand écran pensé pour le grand public. Et en fait, voilà, c'est juste pour faire vibrer les gens qui aiment chanter I Want to Break Free de temps en temps en soirée, quoi. Mais c'est absolument pas pour les gens qu'on a réellement quelque chose à faire, ni de Mercury, ni de Queen.
Ah bah là, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à une icône LGBT ou quoi que ce soit.
Ouais.
Enfin, puis même, de toute façon, comme je dis, tu verras jamais de scène de tendresse, d'amour, de complicité avec un autre homme.
Mm.
Ou alors, de façon ultra chaste, il faut vraiment bien, bien, bien suivre pour capter que les deux sont ensemble.
Je trouve ça fou, tu vois, que les membres du groupe encore vivants qui étaient un peu aux manettes aient accepté, en fait, cette représentation de Freddie Mercury. Je trouve que c'est un tel irrespect. Ouais. Enfin, je me demande à quoi ressemblerait le film si lui, il avait été vivant, mais...
Après, leur relation eux-mêmes était... complexe, de toute évidence. Donc,
oui, d'accord.
C'est pas en mode, ils étaient hyper potes et du coup, ils ont fait le film pour leurs potes.
Il y a quand même ce truc, je trouve, où, un peu de révisionnisme, où bah, déjà, si tu vas sur la page oui, Wikipédia sur les différences entre la réalité et Bohemian Rhapsody, genre, je crois que tu déroules.
tu scrolles sur 5 minutes.
Et parmi certains éléments qui reviennent, il y a un peu cette idée de Freddie Mercury qui est un peu l'électron libre du groupe, mais d'un groupe très soudé, voilà, où les carrières solo, ça va être quelque chose qui peut être dangereux et tout, alors que dans la réalité, en fait, non, tous c'était déjà plus ou moins détachés à certains moments de leur carrière. Tous avaient tenté des trucs en solo. Il y avait vraiment pas ce truc de rester soudé quoi qu'il arrive contre les producteurs et tout ça. Non, c'est faux. C'est une image très idéalisée. Et on sait que c'est dans le film parce que bah, les membres de Queen étaient derrière en collaboration et étaient là à zioter par l'épaule du scénariste.
Ouais, en fait, ils mettent tout dans une structure, comme on a dit auparavant. Mais dans le cas de Freddie Mercury, c'est vraiment terrible de faire ça à lui, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, justement, c'est un gars qui se bat pour échapper à des carcans et le film le renforce dans le carcan du rise and fall hollywoodien. Moi, je pense que le changement qui m'a le plus choqué, on va dire, entre guillemets, enfin, qui m'a le plus marqué quand je me suis renseigné après, c'est le coup du Live Aid, qui est le grand morceau de bravoure de la fin, et où il révèle sa séropositivité avant le concert, alors que dans la réalité, il a fait le test 2 ans plus tard. Et quand même, c'est compliqué. Tu donnes une signification au concert le plus célèbre de leur carrière qu'il n'a jamais eu.
Ouais.
Et encore une fois, tu la rentres dans un carcan. Du coup, il faut qu'il y ait le grand moment de communion à la fin, quoi, parce que c'est vraiment un idéal hollywoodien. Mais quelle mauvaise idée de s'attaquer à Freddie Mercury en le mettant dans un idéal hollywoodien qui est justement ce dont parle sa musique. Enfin, je suis pas un expert de la musique, mais d'ailleurs le film le dit lui-même que le morceau Bohemian Rhapsody, s'il est génial, c'est parce qu'il introduit des trucs que la pop ne faisait jamais à l'époque. Ça dure super longtemps, il y a des fluctuations cheloues et tout, il emprunte à des genres qui ont jamais le droit de représentation à la radio, etc. Et le film, il te fait une chanson pop nulle, quoi. C'est ça qui est terrible.
Moi, il y a un autre... évidemment, quand t'écris un biopic, parfois, oui, tu vas arranger certains éléments juste pour que la narration soit un petit peu moins dense et que le film se déroule mieux, parce que sinon, ça peut être très chaotique. Et certaines fois, qu'un personnage soit à tel endroit au lieu de tel endroit, en vrai, ça change rien. Mais il y a des trucs d'écriture sur lesquels j'ai vraiment tiqué quand, pareil, je me suis renseignée. C'est que, par exemple, le compagnon avec qui il va terminer sa vie, il l'a pas du tout rencontré chez lui à l'occasion d'une soirée, mais dans une boîte de nuit gay. Et ça, bah, c'est une différence qui est quand même majeure, parce que jusqu'ici, on te disait qu'en fait, sa bisexualité et son attirance envers les hommes, c'était cause de malheur. C'est sida, c'est déchéance, c'est vraiment genre tous les points négatifs de sa vie, alors qu'au final, le second grand amour de sa vie, la personne qui va rester là jusqu'au bout, bah oui, il l'a rencontré dans une boîte de nuit gay.
Ouais.
Et en fait, le fait de changer ça, je trouvais que ça voulait dire tellement de choses sur le rapport en fait qu'ils avaient à la bisexualité de Freddie Mercury, qui est vraiment quelque chose de négatif dans le film.
Il y a un article de Vox qui est hyper intéressant et hyper long, du journaliste qui est assez spécialisé dans ces questions-là, qui dit un truc qui, je trouve, est assez vrai concernant le film. C'est-à-dire que le film n'est pas homophobe, mais que dans la façon dont il est construit, l'homosexualité, c'est quelque chose qu'ils doivent aborder parce que c'est indissociable de la personnalité de Freddie Mercury. Mais s'ils pouvaient ne pas le faire, ils ne l'auraient pas fait.
Oui. Ah oui,
et je pense que c'est un peu ça le du problème. Il faut le traiter, mais on le fait pas vraiment. Et c'est pour ça que le film, en fait, il a pas d'angle, comme on dit, tu vois. Son seul but, c'est de faire de Freddie Mercury, pardon, une icône, pas un humain, une icône qui va vendre plein de disques. Et d'ailleurs, le film va faire vendre plein de disques à Queen des années après la sortie des morceaux. C'est très mercantile comme approche, je trouve.
Non, mais en plus, c'est terrible parce que, du coup, c'est aussi devenu une icône justement parce qu'il est mort, de mort tragique. Et je pense que c'est aussi quand même une icône extrêmement importante pour la communauté LGBT, qui a déjà peu de représentations de leur héros, enfin voilà, de héros de la communauté LGBT en tout cas. Et du coup, en plus, là, on leur retire tout ce qui a trait justement à un passé extrêmement lourd. Enfin, l'époque du sida, le peu de communication et de prise en charge qu'il y a eu, le nombre de personnes gays, du coup, qui ont perdu mais tous leurs amis à cette période. Enfin, franchement, c'était absolument terrible. Et donc, voilà, quelqu'un comme Freddie Mercury, dans cette tragédie, est quand même le porte-étendard, enfin le témoin ultime de cette période-là. Et là, on éclipse complètement tout ce qui va avec ça. Enfin, c'est cruel, je trouve, en fait.
Mais je crois même que le sida, enfin AIDS en anglais, c'est pas tellement prononcé. C'est via des JT et
ouais,
tout ça, mais...
You, I got it, il dit, je crois, avant de rentrer. Après, c'est pas inintéressant le fait que il ne formule pas le mot à de multiples reprises.
Bah, lui-même était dans cette sorte de vertige, voilà, mais le film l'est aussi, c'est ça qui est problématique.
Ouais, ouais, c'est ça. En parlant, du coup, il y a vraiment ce côté, il y a une sorte de peur de non-dit qui traîne à l'époque. Mais encore une fois, le truc, c'est qu'il l'aborde, mais il l'aborde sur un coin de table parce que le film doit parler de Freddie Mercury au détriment du reste. Alors que le sujet le plus intéressant qu'il y a dans le produit fini, c'est ce qu'il y a autour de ça, quoi. Et notamment le fait que ce soit quelqu'un de gay dans un groupe de gens hétéros. Et que cette confrontation, elle vient in fine un peu de là, quoi. Ils ont pas la même culture, ils connaissent pas les mêmes problèmes, etc. Et ça, c'est super intéressant. Et le film l'aborde, mais il l'effleure parce que c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Il est obligé de passer par là pour faire de Freddie Mercury une grande figure tragique, rockstar génial, fauché dans la fleur de l'âge. Mais il le prend vraiment jamais à bras le corps parce que c'est un peu petit bras, quoi. C'est-à-dire que on va pas s'emparer de ce sujet-là. Ça ferait un film trop politique presque.
Oui.
Et pas assez iconique.
Oui.
Ce sera pas cette affiche du film qui est juste la silhouette de Mercury pendant le Live Aid qui se découpe sur le public en extase. Parce que c'est ça qui compte. C'est le Live Aid, c'est la performance. La personne à Vox, là, elle explique que le film, il est construit non pas comme le fait qu'on raconte la vie de Freddie Mercury, mais comme un concert de Queen. Une sorte de représentation de ce que serait Queen dans l'imaginaire collectif. Ce qui, encore une fois, n'aurait pas de problème si le film l'assumait. Sauf que là, tout est gravé dans le marbre. On a vraiment l'impression qu'on est dans le film ultime sur Queen, quoi.
Oui.
Le truc, le succès absolu au box-office ne va pas leur donner tort là-dessus.
Bah, c'est sûr, ouais.
Et donc, ouais, ça pose problème.
Même si je trouve que c'est fait un petit peu maladroitement, Rocketman a le mérite, dès le départ, de faire asseoir Elton John dans une pièce et de dérouler, en gros, tous les défauts, entre guillemets, de sa vie, notamment le fait qu'il est sex-addict, qu'il est addict aux drogues et tout ça. Enfin, en plus, qui est vraiment traité sous son vrai spectre, c'est-à-dire une maladie qu'il faut soigner avec une thérapie derrière. Et ça, c'est des trucs que tu vois assez peu dans certains films qui touchent à des figures comme ça. Et au moins, certes, c'est pas un film avec énormément de cul, ça ne déborde pas, mais au moins, les relations charnelles entre deux hommes, elles sont assumées, elles sont là, et surtout, au-delà de l'aspect sexe et tout ça, il y a de l'amour et de la tendresse entre deux hommes, parce que je trouve que c'est facile parfois d'aller sur le terrain du sexe, mais beaucoup plus compliqué et pudique d'aller sur le terrain des sentiments. Genre, deux hommes peuvent sincèrement s'aimer, faire leur vie ensemble et tout ça. Et je trouve que le film est beaucoup plus juste à ce niveau-là, contrairement à Bohemian Rhapsody, où on te dit au moins 5 ou 6 fois, non, c'est Marie l'amour de sa vie, lui le répète je sais pas combien de fois. Là, effectivement, il y a cette relation avec une espèce de relation un peu aromantique, mais romantique quand même, un petit peu ambiguë, avec cet autre homme, que je trouve assez belle, qui est sur la confiance et tout ça. Ouais, où en fait, Elton John, il a un petit peu le droit à l'amour, en fait, plus qu'au cul avec les autres hommes, quoi.
Ouais, puis encore une fois, dans Rocketman, t'as tendance à te dire, finalement, c'est comme ça qu'il se plaît à être représenté, puisqu'Elton John est encore vivant et il a supervisé le truc. Et dans le cas de Freddie Mercury, il est plus là pour mettre un veto sur des épisodes de sa vie extrêmement dramatiques, extrêmement lourds, avec plein de force symbolique. Tu le disais, Déborah, qui d'ailleurs lui-même l'ont marqué au point qu'il a été assez... il a pas été prolixe à ce sujet, quoi, tu vois, il en a pas parlé à tout le monde. Donc ça pose question et c'est intéressant sur Rocketman, puisque donc le réal de Rocketman s'appelle Dexter Fletcher, qui d'ailleurs depuis a réalisé Ghosted sur Apple TV+. C'est lui. Et oui.
Avec
Anna de Armas
et
Chris Evans, voilà, je le dis parce que ça va remémorer des trucs, voilà, bref. À la base, lui, il devait réaliser la version avec je sais plus, c'était avec Sacha Baron Cohen, avec Ben Whishaw, mais il devait faire le film avant que ce soit Bryan Singer qui débarque sur le projet. Et quand Bryan Singer a juste arrêté de venir, parce que c'est Bryan Singer, il a fait des reshoots.
Ouais.
Et ensuite, il est allé faire Rocketman. Et on a quand même l'impression que Rocketman est un peu la version débridée, on va dire, de ce qu'est Bohemian Rhapsody.
Mais comme tu le dis, parce que Elton John était là, il y a eu plusieurs interviews qui sont sorties après la sortie du film. Et en fait, Elton John a raconté que il avait un petit peu milité auprès de la Paramount pour que une scène, en fait, où tu vois Elton John avec un autre homme nu dans un lit, où tu vois deux paires de fesses, donc rien de trop exagéré, ne soit pas retirée au montage parce qu'en fait, ils avaient peur de passer R-rated. Donc encore une fois, j'ai pas envie de dire dans des, c'est pas des considérations homophobes, mais en tout cas des considérations très commerciales au détriment du film. Et c'est pour ça qu'Elton John ensuite a eu cette phrase « Je veux pas que le film soit que de la sexe et sexe et drogue ». Mais sexe et drogue, ça a quand même été une grosse partie de ma vie, donc on peut pas l'amputer. Et il avait fait aussi toute une lettre ouverte sur Instagram en disant que franchement, il était dégoûté que le film se fasse censurer dans certains pays, ou même que la Paramount ait voulu censurer cette scène, parce que pour la représentation des gays, c'est tellement stigmatisant, parce que la scène ne représente absolument rien de problématique. Hein. C'est deux personnes qui parlent nues dans un lit, enfin une scène de la vie quotidienne en soi, oui. Donc rien de choquant. Mais il a quand même fallu qu'ils forcent pour que cette scène reste. Et là, que bah au final ils acceptent de se manger un R-rated, parce qu'encore une fois vouloir raconter un film sur la vie de John Lennon
Oula.
d'Elton John en PG-13, mais à quel moment quand est-ce que tu dis que c'est seulement possible de faire ça?
Après tu te mets à la place des studios dans une logique très mercantile. Bohemian Rhapsody, ça a fait 910 millions de dollars. Rocketman n'en a fait que 200, ce qui est très bien, hein, et largement retour sur investissement, je pense. Et ça a aussi contribué à la mode du biopic, puisque d'autres ont eu lieu par la suite.
Mais est-ce que
s'il avait été classé PG-13, il n'aurait pas fait plus? Probablement.
Ouais. Peut-être. D'ailleurs, c'est drôle, parce que de base, Baz Luhrmann devait réaliser le film, il a décliné l'offre, et donc ensuite il a fait Elvis.
Oh, mais pourtant, ah ouais, bon. Enfin, non, parce que comme j'aime beaucoup la réal de Baz Luhrmann et que je suis beaucoup plus sensible à l'œuvre d'Elton John que celle d'Elvis, j'aurais adoré que ça se passe comme ça plutôt.
Ouais, mais il y a plein de biopics comme ça qui ont des gestations hyper longues et il y a des réalisateurs intéressants qui sont attachés chez, je crois que c'est Get On Up s'appelle, celui de James Brown. Spike Lee était attaché au projet à un moment, ça aurait été hyper intéressant quand même, un biopic de James Brown par Spike Lee.
C'est ouf.
Mais ça s'est pas fait.
Je reviens juste avant peut-être qu'on tourne trop la page sur Bohemian Rhapsody, il y a un truc, alors moi je me rappelle quand je suis sortie du film. Un truc m'avait beaucoup énervé, c'était qu'en fait, hormis tout ce qu'on a déjà évoqué, le film et le scénario n'en est absolument rien à faire de l'écriture du personnage de Freddie Mercury, qui soit réel, enfin, je veux dire, proche du véritable Freddie Mercury ou pas. Mais en fait, je trouvais qu'en termes de narration, c'est pour ça que je suis étonnée pour l'Oscar du meilleur montage, parce que vraiment, il y a des ellipses qui sont foutues dans tous les coins, mais en fait, qui partent du principe qu'encore une fois, le mec lambda qui écoute de temps en temps, tel ou tel tube, enfin, genre We Are the Champions à la radio, il en aura rien à foutre.
Finalement.
Et voilà. Et qu'en fait, oui. Et qu'en fait, tout le film fonctionne sur le capital sympathie de l'imaginaire populaire de Freddie Mercury. Et en fait, n'en a rien à faire de raconter une histoire, en fait, cohérente, où il y a des choses un peu qu'on des, comment dire, des causes et des conséquences, tu vois. Parce que là, il y a tellement d'ellipses qui viennent trouer le récit et qui viennent saccager l'écriture de personnages qu'en fait, il y a pas de consistance à ce personnage vraiment.
Ouais.
Et ce que je veux dire aussi par rapport au montage, c'est donc la scène du Live Aid. Moi qui m'énerve trop, parce qu'en fait, si tu regardes la performance de Queen sur YouTube du Live Aid, t'as la même chose en mieux, si ce n'est que c'est sur petit écran du coup. Et là, du coup, c'est pareil, ils sont dans la reproduction pas à pas de exactement la même gestuelle. C'est ridicule, tout ça pour te reproduire sur grand écran juste un concert qu'on connaît déjà par cœur et ne rien apporter.
Mais tu vois, le côté impasse, j'avais ressenti un petit peu pareil pour Bob Marley One Love, où du coup, bah, il ne recrée pas en fait le concert One Love, il te met des images d'archives, et du coup, j'étais en mode, mais quel est l'intérêt? Et en fait, quel est l'intérêt de recréer un truc que tu connais par cœur? Quel est l'intérêt de te bourrer d'images d'archives un film?
Ouais.
Alors que c'est pas un documentaire, c'est un film, donc t'es quand même censé faire du cinéma, et aux dernières nouvelles, monter des images d'archives, pas ouf. Donc c'est vrai que moi aussi j'ai un peu ce truc de, j'ai vraiment l'impression que peu importe comment ils s'y prendront, à moins de faire quelque chose de tellement détourné qu'on n'est plus dans la réalité, que ça me conviendra pas, en fait je trouverais ça sans intérêt, image d'archives ou recréation parfaite, photoréaliste comme tu disais tout à l'heure.
Ouais, alors que du coup ça aurait été l'occasion de se lâcher en termes de mise en scène, d'essayer de représenter ça d'une manière très différente, mais là on a l'impression qu'il colle déjà au cadrage des images d'archives qui existent, quoi, donc vraiment...
Toujours ce faux mimétisme
qui
veut te faire croire que c'est la même chose.
La Rami Malek. Insupportable.
Ah oui. Et parce qu'en fait, au-delà de tout ce qu'on soulève sur la question de la représentation de l'artiste, etc., d'un pur point de vue technique, ce truc est indigent. Enfin, que s'est-il passé?
Il y avait cette scène juste après les Oscars où il a gagné l'Oscar du meilleur montage. Il y avait cette scène où en fait, c'est une discussion à table avec, je crois, un des producteurs qui est passé dans leur carrière. Et c'est un montage tellement apocalyptique qu'il fait des champs contre champs avec des plans d'une demi-seconde dans tous les sens.
Ah ouais, on se croirait dans Tekken 3. Quoi. Non mais je crois qu'il y a une sorte de choix artistique de, puisqu'ils sont à plusieurs autour d'une table, ils veulent te montrer les reaction shots de tous les membres du groupe dans la discussion,
ce
que je peux comprendre, mais ils sont à genre 4-5 autour d'une table, donc forcément spatialement c'est pas facile, oh là là quel enfer, c'est tellement raté, ça marche pas du tout et vraiment c'est le bordel, de toute façon le montage est bordélique à mort. Je dirais pas que c'est le pire montage de l'histoire, mais je sais pas contre quoi il était à l'Oscar cette année-là. Et c'est quand même vraiment la preuve que les Oscars, c'est rien d'autre que des campagnes de promo
de com,
quoi. Enfin, je veux dire, franchement, la blague. Vraiment la blague.
Complètement.
Dernière chose sur Bohemian Rhapsody, quand on parlait du culte de la performance de l'acteur, donc tu parlais de Rami Malek, la prothèse, le surjeu, il y a rien qui va. Célébration absolue, au plus t'es dans le surjeu, au plus tu gagnes le respect de tout le monde, j'ai l'impression.
Ah ouais, non mais oui.
Et alors là, c'est du cabotinage puissance 4000. Et moi, ma question à chaque fois, c'est pourquoi ? Tu retrouveras jamais ni le charisme, ni le phrasé de ce personnage, et c'est normal, c'est le sien, tu as le tien, etc. À un moment, faut accepter de faire du cinéma et pas complètement de singer quelque chose. C'est pour ça que la démarche de Todd Haynes, elle est intéressante en ça. Ça équivaut à courir après quelque chose que tu n'auras jamais. Et alors, du coup, plus t'y mets du flegme, quoi, je trouve ça vraiment ridicule. Et en revoyant des extraits à la dernière fois, j'ai juste trouvé ça ridicule, en fait. Vraiment,
c'est une parodie. Il y a vraiment un moment où il pouffe de rire et il fait un rire, mais incompréhensible. T'imagines qu'il l'a répété genre 20, 30, 40 fois devant son miroir,
comme Heath Ledger quand il faisait le Joker. Voilà. Non, mais, et par contre, enfin, je me demande, tu vois, quand ils ont pris une photo de Rami Malek et de Freddie Mercury, qui se sont dit, bon, il faut essayer de faire coïncider le truc, à quel moment ils se sont dit, ok, le truc qu'on doit rajouter, c'est des fausses dents.
Les prothèses de dents.
De tout ce qui n'allait pas, de toute manière, pourquoi ils se sont dit, les dents, il faut absolument qu'on les fasse,
alors que Sacha Baron Cohen, mais s'il était né pour jouer Freddie Mercury, la moustache de Borat, elle est là,
C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus intéressant.
Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une sorte de liste à cocher pour aller aux Oscars, et c'est terrible à dire, mais tu fais pas une vraie performance d'acteur s'il y a pas une prothèse quelque part.
Oui, c'est vrai.
C'est obligatoire. Tu vois, c'est Gary Oldman dans Les Heures Sombres.
Ouais.
Bah Marion Cotillard dans La Môme, elle a eu l'Oscar en plus des meilleurs maquillages.
Ouais,
ah ouais,
c'est vrai.
Ouais.
Ah, je déteste ce genre de montage.
Non, mais c'est le combo, tu vois, il faut que, certes, ils sont géniaux, mais quand même, c'est fou comment il arrive à impersonnifier le personnage.
Il est habité par le personnage. Déteste cette expression.
C'est terrible. Bref, Bohemian Rhapsody, carton absolu au box-office. On en a quand même bouffé très très longtemps. C'était dur. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait une sorte d'adoration générale. Alors, j'y étais pas écran large, évidemment, à cette époque-là. Mais je suis retombé sur les articles où on dit que c'est quand même pas terrible. Et vraiment, il y a des commentaires ultra violents. Quoi ? Scandaleux. Vraiment.
Tu vois, quand on fait des critiques de films d'animation, t'as des gens qui commentent. Oui, bah moi, mon fils, il a bien aimé. Bah moi, je vais faire pareil avec ma maman, qui est une fan ultime de Queen et qui n'a vraiment pas aimé Bohemian Rhapsody. Voilà. Donc, voilà. Si ma maman dit que Bohemian Rhapsody c'est nul, bah c'est nul.
Bravo, Madame Lechner.
Bref, du coup, ce film qui. Bravo, Madame Lechner. grâce à ce film qui a fait un carton énorme, donc comme on l'a dit, est presque arrivé jusqu'au milliard quand même, ce qui est assez événementiel, y compris en France d'ailleurs, où il a dépassé les 4 millions de entrées, alors que les biopics en France, c'est quand même un peu moins à la mode. Enfin, en plus, souvent, c'est des grandes figures américaines qui sont représentées, donc à part quand on les fait nous-mêmes. Enfin, je veux dire, tu vois, genre Aretha Franklin ou Judy Gardner récemment, je pense que c'est pas des artistes qui sont aussi célèbres en France qu'aux États-Unis. Donc, c'est plutôt cohérent que ça fonctionne moins ici. Mais là, quand même, carton absolu, enfin, Queen, de toute façon, ça a fait l'unanimité. Hein. Et donc, ils s'y sont tous mis. Alors, en cherchant un peu, c'est marrant parce que je te rends compte qu'il y a plein de projets qui datent d'il y a super longtemps, qu'ils essayaient de faire depuis un paquet de temps. Et finalement, le succès de Queen a probablement débloqué pas mal de prods, quoi. Ils se sont tous dit, ah bah vas-y, c'est le moment, on y va, quoi. Et donc, ouais, il y en a eu plein. Donc voilà, je les ai cités tout à l'heure. Hein, mais Judy, qui a valu aussi l'Oscar à René Zellweger. Il y a eu Respect également.
Mais lui qui a pas été un succès, même au contraire, il s'est grave crashé, parce qu'il a coûté 55 millions de budget et il en a rapporté 32 millions au box-office mondial.
Donc comme quoi ça marche pas à tous les coups.
Ouais.
Il y a eu Maestro récemment avec Bradley Cooper qui était lice aux Oscars, l'ai pas vu, mais à tous les coups c'est
avec une prothèse problématique aussi.
Voilà, voilà.
Il y avait une vidéo super drôle sur TikTok où en gros c'était des violonistes qui essayaient en fait de suivre la mesure que battait Bradley Cooper comme ça en Maestro. Et ils étaient genre complètement essoufflés parce qu'en fait il fait n'importe quoi alors que dans les interviews il disait oui je me suis entraîné pendant je sais pas combien de temps à être Maestro. Et
voilà. C'est si con putain.
Il y a des comptes YouTube qui répertorient, tu sais, ils jouent les notes qu'ils jouent dans les films, genre au piano. Et souvent, c'est très drôle quand même. Ça veut dire bling, bling, bling.
Mais là, c'était ça. En gros, ils refaisaient le truc. Ils disaient, non, mais ça n'a ni queue ni tête.
D'ailleurs, il y a une scène qui m'a fait éclater de rire dans Rocketman pour l'avoir vu récemment. Et qui, je trouve, ça fonctionne parce que du coup, il y a ce côté film déluré qui assume de ne pas raconter la vraie histoire. Mais la première fois qu'il prend des cours de piano, la prof est en mode tu as pris ta partition? Et lui, tout penaud, je l'ai pas. Et puis elle dit, montre-moi ce que tu sais faire. Et toi, tu sais qu'il a jamais pris de cours de piano et qu'il y va parce qu'il a envie de faire de la musique. Et donc il se met au piano, le mec qui a jamais joué au piano. Et là en fait il joue le morceau que la meuf jouait, mais la scène d'avant, parce qu'en fait il l'a entendu, tu sais, et il a su le reproduire en direct.
C'est comme ça que ça se passe.
C'est genre du bac, le truc.
Le solfège, c'est pas pour les génies.
Non, mais c'est ça. Pour avoir tenté de faire un peu de piano à une époque, je peux te dire que c'est le truc le plus improbable de l'histoire. Mais bon, c'est marrant.
Expressing your love can look many different ways. And with the right jewelry gift from Blue Nile, it can truly sparkle. Blue Nile's collection of classic diamond jewelry makes for the kind of gift that speaks volumes without saying a single word. Or switch things up with a sapphire piece sure to spark conversation. Either way, Blue Nile's diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Express yourself with Blue Nile, the original online jeweler, at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mais oui, voilà, du coup, on a tous ces films, et moi, ça me fait penser au fait que, finalement, est-ce que les biopics musicaux, c'est pas une forme de franchisme ultime? Presque mieux que les super-héros. C'est des figures qui sont déjà extrêmement établies, donc on n'a même pas besoin de faire d'origin story, elle est déjà toute faite. Et ensuite, faut faire un film où on raconte une vie, quoi, voilà. Et puis, ouais. Et puis c'est parti.
Non, mais c'est ça, mais tu vois, c'est un peu ce que je disais pour Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, c'est qu'en fait, on part tellement du principe que le grand public a déjà certains acquis ou une certaine image de Freddie Mercury que tu n'as pas du tout à travailler l'écriture de ton personnage. Et pour moi, ça me rappelle complètement la manière dont en ce moment, le cinéma d'horreur ressort ces vieux boogeyman de légende, donc les Michael Myers, les Ghostface, les Freddy, tout ce qu'on veut, les ressort à l'envi, en misant toujours plus sur la nostalgie et sur l'idole qui est déjà façonnée, qui est déjà présente et qui ne nécessite plus de créer autour. Et en fait, bah voilà, les Michael Jackson et les Freddie Mercury et tout, bah c'est les boogeyman des biopics musicaux.
Un boogeyman tout court.
Voilà. Et oui, enfin pour moi, en fait, c'est vraiment la même démarche de la frilosité à recréer vraiment des choses qui ne s'appuient pas sur déjà un acquis de sympathie ou de nostalgie du public.
Oui, puis en général, tu vas choisir une histoire qui est déjà très connue, soit parce qu'elle est très macabre, soit parce qu'elle est très belle, mais je sais pas, c'est pas Danny Briand qui va avoir son biopic.
Alors, Christian Clavier a annoncé que...
Voilà, tout est possible maintenant, tu sais. Donc, tout à l'heure, tu parlais des gens qui la cible de Bohemian Rhapsody, qui écoutent We Will Rock You dans leur voiture en revenant, ou alors en soirée un peu bourrée. Du coup, je me suis dit, allez, Connemara, le film, ça arrive.
Oh là là.
Sardou, The Musical.
Il y a Aznavour là qui arrive. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais,
c'est vrai.
Qui va être fait par Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Et c'est Tahar Rahim, visiblement, qui pourrait jouer Aznavour.
Incroyable.
Pourquoi pas, franchement.
Pourquoi pas. Voilà. Charles Aznavour, je dois dire que c'est l'un des tout premiers concerts que j'ai vu quand j'étais petite.
C'est vrai?
Ouais.
Waouh.
Wow. C'était la tournée de la Star Academy, saison 3, tu vois.
Ah, moi, je crois que c'est encore pire, c'était genre Collectif Métissé.
Ah, d'accord, ok.
Voilà. Bon, ouais, chacun sa culture, j'ai envie de te dire. Donc. Il n'y aura jamais de biopic sur Collectif Métissé, je pense.
C'est pas, ne jamais dire jamais.
Ouais, je ne dis jamais. Ouais, du coup, côté franchise de super-héros, finalement, avec des chanteurs et des chanteuses, c'est peut-être même un peu mieux, puisqu'on a la reconnaissance institutionnelle avec la plus de récompenses. Enfin, ouais. Je veux dire, Spider-Man No Way Home, Tom Holland ne va pas prendre l'Oscar du meilleur acteur pour ça.
Quand bien même il Ends non plus.
Quand bien même il lui met une prothèse dentaire, ça ne suffira pas. Donc ouais, c'est pas mal. De toute façon, Bohemian Rhapsody, l'argent qu'ils ont amassé dessus dépasse probablement beaucoup de blockbusters américains qui dépensent parfois plusieurs centaines de millions de dollars pour un revenu aussi énorme, mais qui du coup forcément est un peu réduit, parce qu'en plus il y a un budget marketing énorme. D'autant que, c'est ça aussi que tu dis, c'est que, prends l'exemple de Bohemian Rhapsody, puisque c'est le plus connu, mais la promo, elle est aussi vachement aidée par la musique. Enfin, c'est-à-dire que t'annonces le projet, t'écoutes Queen, et ça fait de la promo.
Et ça fait envie de se
voilà,
oui,
oui,
parce
voilà.
Que c'est génial. Donc,
tu mets les morceaux dans la bande-annonce, et voilà, c'est fait.
C'est ça, en plus, ça correspond pas mal avec cette traîne dans les bandes-annonces actuellement, de foutre même sur les blockbusters qui ont rien à voir, des morceaux de pop.
Madonna, Deadpool 3.
On vient
là,
à peine de voir Deadpool 3, là.
Et
c'est Madonna, ouais.
C'est quelle chanson qu'ils ont
C'est Prayer, je crois.
Like a Prayer, oh, fait chier.
Ouais, je crois que c'est celle-là.
Je pourrais plus l'écouter, tant pis. Ouais, donc... c'est le bon plan, d'autant que c'est des films qui coûtent du coup en général un peu moins cher. Hein. Voilà, on est dans les 50 millions souvent. Bon, des fois, il craque un peu le slip, mais jusqu'ici, on reste dans ces eaux-là et avec des possibles retours sur investissement assez dantesques.
Bah, c'est pour ça que le biopic Michael, sur Michael Jackson, qui a quand même été annoncé à 155 millions de dollars,
ah, la vache,
hors marketing, bah, ça va être un sacré pari quand même, parce que 155 millions, va quand même falloir les rembourser. D'un autre côté, c'est Michael Jackson, et je sais pas en fait si c'est un argument pour ou contre, parce que pour moi c'est un argument contre, mais pour plein de personnes ça doit être un argument pour.
Ouais.
Franchement, je pense qu'on est dans le niveau Freddie Mercury en termes d'icône, quoi.
Ah bah même plus, je pense carrément plus.
Bah après, Freddie Mercury, vu qu'il y a un côté icône tragique, alors certes il y a un peu ça aussi avec Michael Jackson, je suis d'accord, mais plus encore dans le cas de Mercury, qui du coup lui donnait vraiment un côté hyper cinématographique de base. Là où Michael Jackson, c'est juste... tout le monde va le voir parce que tout le monde veut écouter Beat It sur des enceintes d'écran de cinéma.
Ouais. En plus, Michael Jackson sera joué par Jafar Jackson.
Oui, en plus, il y a le côté encore plus voyeuriste et morbide de genre... c'est son fils ou son petit-fils
qui... Son cousin.
La chose qu'ils ont déjà fait dans Straight Outta Crompton avec Ice Cube. Alors, la première fois que j'ai vu le film, j'ai fait... Putain, mais l'acteur qui joue Ice Cube, il lui ressemble tellement, c'est incroyable. Et en fait, c'est son fils. On en arrive à un niveau un peu dans le mimétisme un peu bizarre, quoi. Bon, mais encore une fois, quel intérêt, ça aurait été n'importe qui d'autre, j'aurais pu me dire, bah oui, c'est Ice Cube, genre pourquoi il faut qu'il lui ressemble à ce point.
Mais ouais.
C'est vraiment... Et ça rejoint un peu ce qu'on disait la dernière fois dans la réunion sur les Legacy Quals. Est-ce que ça va pas un jour entrer en concomitance avec la mode de... du ralentissement numérique, des recréations numériques de gens, etc. Bah, vu l'obsession pour le mimétisme qu'il y a actuellement, on a en droit de se poser la question.
Ah oui, non, mais je pense. Après, là, je pense qu'il y a aussi juste une envie, comme c'est vrai que dans la culture américaine, on est aussi très dans la... l'idée de filiation est toujours extrêmement précieuse. On adore se dire qu'il y a un héritage qui se transmet.
Népotisme, tu veux dire?
Ah oui, non, mais voilà, aussi. Ça passe aussi par là.
C'est l'autre mot.
Mais du coup, je pense que ça sert aussi à émouvoir et à faire pleurer dans les chaumières de se dire, oh, des contes, en plus, il est interprété par son propre fils. Et, enfin, bah, je trouve ça ridicule, mais je pense que c'est vraiment un argument marketing, tu vois. Mais...
Comme la réelle pour SOS Phantom les derniers aussi. C'est le fils d'Ivan Reitman, c'est forcément hyper respectueux. Non.
C'est juste pas la même personne, hein, en vrai.
C'est Gorō Miyazaki. Pas très respectueux du taf de son père, quoi.
Et Michael Jackson, du coup, je sais pas, on est le dernier gros truc qui était sorti sur Michael Jackson. Alors, à part le...
This Is It,
donc de Kenny Ortega.
Donc, c'est un film concert, ça, non?
Oui, ouais. Non, ce que je pensais au documentaire des témoignages. Du coup, Living Neverland, du coup, de ses victimes. De pédophilie, en fait.
De toute façon, c'est vraiment... je me posais la question tout à l'heure, mais je sais pas comment ça peut être abordé, si ça va être abordé. Je me dis que s'ils le font pas, ce sera un petit peu une sorte d'aveu de... Je sais pas trop quoi, mais ce serait bizarre, en fait, qu'un truc aussi important soit totalement évacué. Après, si c'est un biopic, c'est qu'il va de sa plus tendre enfance jusqu'à sa mort, peut-être qu'en fait, ils vont choisir de totalement éluder ça. Est-ce qu'ils vont choisir de l'aborder, mais en niant? Franchement, je sais pas comment ça...
Juste qu'à l'arrivée du succès, ils vont pas plus loin, comme ça, ils évitent les problèmes ou...
Ils zappent la mort?
Ouais, en même temps, c'est vrai que...
C'est con, quoi.
Oui, ou alors, du coup, peut-être ils vont faire une giga ellipse, genre le succès, ensuite énorme ellipse, et après, juste avant la mort, genre, ah mon Dieu, c'était tragique.
J-2, tu vois, genre...
Ouais, parce que là, du coup, effectivement, s'ils décident de complètement passer le sujet sous silence, ça va vraiment faire du bruit, parce que ce serait extrêmement bizarre. Je veux dire, c'est tellement rattaché à Michael Jackson, maintenant, les soupçons, au moins les soupçons de pédophilie, que...
Oui, puis même son comportement qui, depuis, a été avéré avec les enfants, enfin... quand même quelque chose de... Est-ce qu'on va voir des scènes de lui qui dort dans le lit de petits-enfants qu'il a invité pour des soirées pyjama? Je ne pense pas.
Ouais, d'autant que c'est vraiment complexe comme question, parce que tu sais, c'est pas en mode il a été condamné et du coup on sait que c'est passé exactement comme ça.
Ouais, c'est pas Claude François qui dit en interview 13 ans...
Tu sais, il y a un genre de non-dit autour et de débat d'ailleurs encore entre les gens qui aiment sa musique et etc. Que j'aimerais pas être à la place des scénaristes.
voilà. Je dis, les scénaristes, il y a la pression de la famille derrière.
Surtout avec la famille derrière qui est en mode « Alors, tu le bosses bien, ce scénario ?»
Alors après, peut-être qu'ils arrivent...
T'as parlé de Thriller, le clip, il est bien, hein, John Milius.
Peut-être qu'ils vont choisir d'avoir une espèce de pas répondre à la question parce qu'ils voudront pas y répondre, mais d'avoir une sorte de double lecture très ambiguë où selon le point de vue tu peux interpréter les choses différemment. Peut-être que, mais j'y crois pas une seule seconde, c'est un film
réaliste.
Oh putain, c'est Antoine Fourcade.
Ah putain, mais oui, c'est vrai.
Ah, mais oui, j'avais oublié.
ça change tout.
Après Equalizer 3.
Bon, du coup, il n'y a pas d'ambiguïté.
Mais bon, c'est un film à 155 millions. J'ai envie de croire qu'ils prendront strictement aucun risque et qu'ils vont faire le truc le plus lisse possible parce que, bah, il faut un retour sur investissement, en fait. Tu peux pas vendre un film aux gens qui va complètement, genre, destroyer genre leur icône ou d'un autre côté vendre que ses côtés les plus lisses. Enfin, je sais vraiment pas comment ils vont s'en sortir. J'espère un peu quand même que ce film va faire un four. Tu sais qu'on coupe la tête de l'hydre comme ça et genre qu'elle repousse pas.
Oui, parce que là il y a quand même beaucoup de têtes qui se préparent là du coup.
Ah oui, oui. Oui, je trouve qu'il y a un autre point commun avec la façon dont Hollywood traite ses franchises actuellement, même de super-héros par exemple, puisque c'est l'exemple le plus facile évidemment. C'est le côté on connaît déjà la fin. Tu vas voir un film non plus pour être surpris par ce que tu vas voir, mais pour constater quelque chose que tu connais déjà.
Ouais.
Chose qui était déjà à l'œuvre, je trouve, sur Bohemian Rhapsody. Vu qu'ils prennent absolument, il y a aucun choix vraiment, il y a aucun parti pris narratif dans le film, enfin à part les moments où ils disent pas la vérité. Tu sais déjà ce que tu vas voir et tu viens pour le spectacle de la mort de Freddie Mercury.
Ouais.
Et il y a un peu de ça, je trouve, dans les biopics aujourd'hui où tu vas avoir, bah tu vois clairement Amy Winehouse. Tout le monde connaît le destin et la vie d'Amy Winehouse et on sait très bien que le film va pas se focaliser sur une partie particulière de sa vie, qu'il va pas essayer de raconter quelque chose avec son histoire, qu'il va juste dérouler le programme de sa vie. Et du coup, t'y vas parce que c'est vraiment morbide de le dire comme ça, mais de la même manière que quelqu'un qui aime beaucoup les films de comic book va aller avant d'avoir un film Spider-Man par exemple, ah bah je sais qu'à la fin il y a un caméo de truc machin, bah là tu peux dire je sais qu'à la fin elle va faire une overdose et qu'elle va mourir, quoi.
Ouais. Donc c'est la fin de la plupart des biopics musicaux, quand même.
Oui.
Non, non. Des fois, ils font des overdoses, mais ils ne meurent pas. Donc, ouais, ça rentre encore dans cette formule par rapport à ça, je trouve. Et ça repose la question, finalement, qui est celle du respect des musiciens traités.
Oui.
C'est-à-dire que quand bien même la famille est derrière, est-ce que Bohemian Rhapsody respecte Freddie Mercury? Est-ce que Michael respectera Michael Jackson?
Est-ce que Back to Black respectera
Amy Winehouse? Est-ce que respectera Aretha Franklin? Je l'ai pas vu pour le coup, je ne sais pas. Mais tu sais, à force de voilà en faire des sortes de super héros, est-ce que c'est parce qu'en plus c'est ça aussi, c'est qu'ils prennent souvent des figures politiques. Tu le disais sur Bob Marley, c'est que tu vois ils prennent pas des chanteurs.
Danny Briand.
Voilà, pas Danny Briand. Alors, mais tu vois, ils prennent des chanteurs engagés.
Michel Drucker a annoncé que.
Non, mais tu vois, on a parlé de NWA, on a parlé de Freddie Mercury, on a parlé de Bob Marley, bien évidemment. Enfin, c'est des figures hyper politiques, quoi. Tu vois, qui représentent vraiment quelque chose. Et tu vois, un jour, ils feront peut-être Rage Against the Machine, j'en sais rien. Et c'est des musiciens qui ont vraiment un lien très important avec l'actualité, la politique, etc. Donc à chaque fois, ils prennent des sujets pas faciles et ils le lisent à mort.
Ouais, c'est pour ça qu'Aznavour, j'espère aussi qu'il y aura un spectre politique dans le film, parce que bah, c'est quand même un gros aspect de la vie de Monsieur Aznavour, qui sera normalement le titre du film.
Monsieur Aznavour ?
Monsieur Aznavour, oui.
Ok.
Ok.
Bon, en même temps, j'avoue que Charles...
ils n'ont pas appelé Charles. Ou alors, tu sais, souvent, ils aiment bien prendre un nom de chanson, donc je sais pas quelle chanson d'Aznavour ils auraient pu prendre.
C'est la bohème. Genre,
la bohème. Ah, c'est passé à deux doigts de s'appeler la bohème, je pense. Ou emmenez-moi.
Oh là... Si un jour je deviens réalisateur, je ferai un biopic de Georges Brassens et je l'appellerai le gorille, voilà.
Garo gorille. J'avoue, Georges Brassens, on n'a pas eu encore.
Non, et pourtant, figure hyper intéressante.
Et politique,
je trouve,
et Jacques Brel non plus. Enfin, ces figures-là, on n'a pas trop eu, non.
Ouais, c'est vrai que pour moi, la grande figure tragique qui pourrait avoir un biopic, c'est Balavoine.
Mais on avait
mec
rigolé, Loli.
Ah, d'où? Hyper
et on
l'appellerait engagé.
Ma bataille.
Et alors, l'appellerait ma bataille. Bah après, c'est bizarre parce que dans sa chanson, il parle pas de lui.
Bah alors, je ne suis pas un héros.
Je ne suis pas un héros, ce serait pas mal.
Ouais, j'avoue. Ouais, ou le chanteur.
Ou le chanteur, ouais.
Mais par contre, c'est vrai que Balavoine, franchement, a réécouté les paroles de ses chansons maintenant. Mais elles sont tellement vénères politiquement, mais vraiment, plus aucun chanteur, aujourd'hui on a Vianney, plus aucun chanteur n'écrit des paroles comme celles de Balavoine aujourd'hui, hein, franchement.
Bah lui et Renaud, quoi.
Oui.
Ah bah écoute du Renaud années 80, ça pique.
Je préfère réécouter du Balavoine, quoi.
Oui, moi aussi.
Moi j'aime bien Renaud, ok. Mais oui, effectivement, c'est des trucs assez vénères qui, effectivement, aujourd'hui, seraient peut-être pas aussi.
Et pourtant, c'est tellement actuel, c'est incroyable d'écouter ses paroles aujourd'hui. Mais...
Puis bon, lui, il est très engagé, il a eu une mort tragique.
Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais
en plus, il a des chansons hyper entraînantes, du coup, ça ferait des bonnes transitions, des bons montages, tu vois, entre les scènes.
Donc vraiment, c'est. Vous imaginez qui pour jouer Balavoine, vous?
François Civil.
Bah, Pierre Ninet direct, hein, avec des fausses dents.
Pierre Ninet avec des fausses dents.
Avec de la mie de pain dans les joues, avec ça. Non, mais putain, tu m'as chauffé le biopic sur Balavoine, j'ai envie de le voir maintenant.
Désolé. Mais je vais plutôt parler des trucs qui vont arriver.
Okay.
peut-être un peu moins excitant. Là, donc il y en a plein qui se préparent, hein, puisque là, la trend n'est pas terminée. Peut-être que vu que c'est que des énormes projets, s'il y en a quelques-uns qui se plantent, ils vont arrêter.
Peut-être.
On n'en sait pas. Mais donc la suite, évidemment, A Complete Unknown, Bob Dylan par James Mangold. Je sais que toi, Judith, tu es contre. Voilà, tu es contre.
Oui.
Parce que Timothée Chalamet, voilà, dans le rôle de Bob Dylan, ce qui, selon moi, n'est pas un si mauvais choix de casting.
Non, mais c'est pas un si mauvais choix, mais c'est juste que c'est un peu inintéressant parce que Timothée Chalamet, en fait, maintenant, il a tous les rôles de tous les films qui sortent et c'est un peu bon. Pff, oui, ça va encore être un Chalamet movie. Enfin, bon,
Chalamet movie, il y a les Statham movie.
Il y a plus grand chose. Ouais, non, mais il y a plus grand chose d'excitant à ça, quoi. Après, je doute qu'il va très bien faire son travail. James Mangold, encore une fois, il a fait des films que j'adore, donc je pense que il va faire un travail correct. Mais en fait, je pense que je le prendrais pas si mal s'il n'y avait pas eu Another Day, tu vois. C'est juste que bon, l'histoire n'a pas du tout assez retenu ce film. Et là, maintenant, va nous sortir un truc bien lisse, bien corpo, bien, voilà, bien comme il faut, bien comme tous les défauts qu'on a décrits. Et en fait, c'est ça qu'on va retenir sur Bob Dylan et ça m'énerve.
Après, il avait fait I Walk the Line qui est bon, tout en étant extrêmement classique.
C'est Walk the Line. Hein.
Walk the Line, pardon. Tout en étant extrêmement classique, puisque c'est du Mangold fervent.
Classiciste
américain, on peut le dire, mais dans le bon sens du terme pour moi, franchement. Il développe quand même quelque chose, notamment, encore une fois, quelque chose de très américain, qui est une sorte d'histoire d'amour un peu contrariée dans le film, qui n'est pas inintéressante, plutôt que de s'intéresser vraiment à Johnny Cash comme une sorte de dieu, quoi. C'est ça qui est pas mal. Il y a quelques scènes vraiment bien, notamment une scène où il a force à chanter une chanson qui la gêne devant un public qui représente pas mal le personnage et sans le diaboliser mais sans non plus le déifier. Je trouve que c'est assez malin et bon, c'était assez cohérent que Mangold s'attaque à Johnny Cash qui est vraiment une figure américaine, quoi, vraiment. En plus, c'est plutôt bien filmé, c'est pas mal du tout. Et ça avait cartonné aussi d'ailleurs à l'époque, parce que je crois qu'avec 28 millions de budget, ça en a rapporté 186, voilà.
Ouais.
Donc c'était avant Bohemian Rhapsody, mais il y avait déjà un public. Bon, il y avait Joaquin Phoenix et tout ça, quoi, mais mais c'est vrai que sur Bob Dylan, c'est quand même une figure très différente de celle de Johnny Cash.
Oui, en plus très secrète et tout, enfin bon, on verra.
On verra bien. Il y a aussi Better Man sur Robbie Williams. Je ne sais pas qui réalise ce truc.
Bon, alors ça, par contre, j'adore Robbie Williams, je confesse. Du coup, je l'attends énormément.
Je suis un peu dans cette team, j'avoue.
J'écoute du Robbie Williams un peu en cachette. Tu sais, quand tu caches un peu l'écran de ton téléphone dans le métro, tu sais, pour pas trop que les gens voient ce que t'écoutes. Bah voilà, ça,
je comprends.
C'est moi avec Robbie Williams.
On touche juste sur le doigt du truc, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est un peu clients. En fait, il y a vraiment... Tu vois, tu parles de Balavoine, et moi aussi, je suis hyper fan. S'ils faisaient un biopic sur Balavoine, je voudrais le voir, ne serait-ce que pour voir ce qu'ils ont, ce qu'ils en ont à en dire. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne, du coup. Même sur les détracteurs.
Mais non, parce que clairement, là, moi, je dis, parce que comme c'est pas dans les cartons, je dis, j'ai envie de voir ce film, parce qu'il y aurait tant de potentiel. En même temps, si c'était vraiment annoncé, je serais la première à être vénère.
Ouais, en fait, on fantasme le projet qu'on veut, on fantasme le biopic de nos rêves.
Ok, alors je vais tout de suite couper vos désirs. Ce Better Man, c'est réalisé par le mec qui a fait The Greatest Showman.
Oh merde. C'était pas ouf ça.
Je suis désolé.
Oh, c'était catastrophique.
Je voulais être poli, mais c'est de la merde.
Je suis vraiment très navré pour vous.
Oh, chaud.
Il y a donc Michael, hein, on en a largement parlé. Mais c'est le blockbuster du teint, comme t'as dit.
Ah oui, voilà.
C'est hallucinant, quoi, quand même.
J'ai vraiment envie qu'il se casse la gueule, parce qu'après, des biopics à plus de 100 millions, j'ai peur que ça se généralise, quoi.
Oh là là, ouais, putain.
Non, ouais.
Il y a l'équipe qui a fait Lord of Chaos qui bosse apparemment sur un biopic de Gigi Allin. Et alors là, non, en fait.
Tu sais pas qui c'est.
C'est un punk, mais extrême. C'est le mec le plus anticonformiste qui a jamais enfanté la Terre.
Okay. Ouais,
donc qui va se retrouver dans un film très conformiste.
Oui. Parce que tu vois, Lord of Chaos, il se dit en anticonformiste par rapport à l'histoire qu'il traite, mais en soi, le film ne l'est pas. Et là, je pense que ça va être la même chose.
Ouais.
Il s'attaque à des figures hyper controversées parce que ça fait controversé. Sauf que finalement, le film sera loin d'être aussi controversé.
On dirait Bob Marley, tu sais, le personne anti-système qui se retrouve dans un film qui rentre totalement dans le système hollywoodien et du biopic et qui est dans les cases
sur
les rails.
Voilà, c'est aussi le paradoxe de prendre, comme on l'avait dit sur Bohemian Rhapsody, des figures très politiques, très engagées. Gigi Allin, c'est tellement extrême comme approche que non. Faites-le pas, en fait. Arrêtez, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Et autre énorme projet, les 4 films sur les Beatles. Alors là... quand même.
En tant que grande fan, ça m'énerve aussi déjà.
La trilogie déjà.
Attends, mais maintenant, c'est qui est derrière? Parce que c'est un gros réal, non?
Ah oui, c'est Sam Mendes.
Oh, ah oui.
Non, mais c'est marrant qu'il y a autant de grands réals qui se retrouvent là-dedans maintenant. Parce que c'est vrai que les films comme Judy, Respect, etc., qui sortent actuellement, c'est pas réalisé par des inconnus, mais tu vois, on n'a pas de grands cinéastes. Oui, tu dis pas, ah, c'est le film de machin, quoi.
Après, moi, je sais pas vous, il y en a un que t'as pas cité et que je suis très très curieuse de voir, c'est Maria de Pablo Larraín,
ouais,
qui en gros s'intéressera à la chanteuse Maria Callas et qui apparemment serait jouée par Angelina Jolie. Donc déjà, je me dis que caster une actrice qui a... Quel âge Angelina Jolie?
Elle doit approcher la cinquantaine, je pense.
Voilà, bah déjà, caster une actrice de cet âge-là, du coup, je me dis, ok, donc ça veut dire que ça va vraiment traiter peut-être la dernière partie de sa vie. Et donc, en général, on aime bien traiter les stars et les chanteuses quand elles sont au top de leur vingtaine, trentaine. Donc là, choisir, apparemment, hein, je me base juste sur le fait que c'est Angelina Jolie, sur une période de sa vie où elle est plus âgée, ça m'intéresse. Et surtout, j'avais adoré Spencer, parce que c'était déjà en fait un biopic qui assumait qu'il était complètement fantasmé et qu'il ne racontait pas la vie de Lady Di, mais il voulait vraiment raconter sur une période charnière de ce qu'a été sa vie, une espèce de conte de fées noires. Et j'avais trouvé ça très beau. Et donc, j'espère vraiment qu'il va faire un petit peu la même chose. Et puis, en plus, je ne connais pas du tout, dans les très, très, très grandes lignes, la vie et la carrière de Maria Callas. Donc là, pour le coup, je ne connais pas la fin. Si elle est morte, ok, d'accord. Mais, je dis pas de conneries, elle est bien morte, Maria Callas.
Oui,
c'est bon, depuis longtemps.
Maria, si tu es là, tape deux fois.
Non, attends, mais du coup,
je suis un peu déçu parce que quand t'as dit un biopic de Maria par Pablo Larraín, je pensais à Maria Carré, j'étais en mode ça va être trop bien.
Ce serait horrible. Maria. Attends, ça voudrait dire que Maria Carré, donc diva énorme ego que j'adore, hein, pourtant qui est une actrice artiste que je trouve incroyable. Mais imagine le boulard de Maria Carré qui vient s'immiscer dans la production d'un film à sa gloire.
Ah, non, ce serait par Pablo Larraín, tu vois. Enfin, le mec qui a fait Jackie, qui fait un film sur Maria Carré, ce serait drôle.
Il s'appellerait Obsessed.
Ouais, j'avoue qu'il est spécialiste des biopics, en tout cas pas inintéressant du coup pour une fois.
Ouais, mais le cas de Spencer est assez intéressant parce que c'est un biopic. Tu parlais de Amy Winehouse où il y a un côté, tu rajoutes une couche sur déjà ce qu'elle a subi en termes de harcèlement de la part de la presse, des journalistes, etc. Et finalement, Spencer s'attarde sur une figure qui elle aussi a payé de sa vie le harcèlement des journalistes, etc. Et il le fait de l'exacte bonne manière. Alors moi, je suis moins fan du film que vous. Mais je pense vraiment que l'approche choisie par Larraín était la bonne. C'est vraiment la bonne manière de le faire. Tu la prends dans un tout petit espace, tu fais un genre de film de fantôme un peu bizarre, et t'essayes vraiment de raconter quelque chose à partir de ça. Alors, il est obligé, évidemment, de garder le côté... c'est Kristen Stewart qui se la joue acteur studio en reprenant toutes les poses, les robes et les machins. Évidemment. Mais il en fait une sorte de truc un peu surréaliste qui, du coup... permet de pas enfoncer le clou et pas lui taper dessus encore un peu plus.
Ouais, puis il y avait un peu ce truc que je trouvais très beau où en fait sa vie, son histoire lui échappe et il y a que à la toute fin qu'en fait elle devient réellement le personnage principal de sa propre vie en fait après avoir été complètement effacée. Et donc c'est un peu dans la démarche inverse du biopic où dès le départ tu es le personnage principal de ta propre vie, c'est ce qu'on va te raconter. Là c'est retrouver une emprise que je trouvais très beau. C'est pour ça que j'espère vraiment que Maria sera dans cette même démarche, qu'on sera sur un morceau de vie choisi et peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus fantasmé où on n'essaie pas absolument de coller à sa vie dans un truc assez ronflant et chiant. Lui, pour le coup, je suis assez curieuse, ouais.
Moi, pour les Beatles, je suis curieuse quand même, malgré tout. Enfin, voilà, évidemment que j'irai, mais... ils ont déjà suscité beaucoup de films, donc j'avais cité la semaine dernière Nowhere Boy pour la jeunesse de John Lennon, mais il y a beaucoup de documentaires, enfin de formats télévisuels aussi qui ont été faits sur leur vie. Moi, je trouve que ça n'égale jamais évidemment le talent des films de Richard Lester, qui l'a fait avec les Beatles à l'époque de leur succès, que moi j'adore. Et je trouvais que finalement, les Beatles avaient connu une approche qui était intéressante, c'était le film Across the Universe, c'est comme ça il s'appelle, je crois, oui, que moi je trouve pas bien du tout. Mais qui, pour le coup, c'est pareil, te raconte l'univers des Beatles avec une histoire qui n'est pas celle des Beatles, avec Jim Sturgess, un peu sosie de Paul McCartney dans le rôle principal, où tu sens que on a envie de te parler des Beatles sans employer le chemin direct du biopic. Et du coup, je trouvais ça très intéressant. Il se trouve que je trouve pas ça réussi, mais au moins, c'était une approche, que je trouvais pertinente et chouette. Et du coup, là, a priori, ce sera sûrement pas le cas. Mais je me demande vraiment comment, en fait, vont se dérouler ces quatre films, dans quel ordre ils vont sortir, est-ce qu'ils vont sortir en même temps?
C'est nul parce qu'ils se droguent pas assez. Donc c'est pas marrant, y a pas de Rise and Fall.
Ils se droguent pas mal quand même.
Ah ouais.
Bah, certes ils en sont pas morts, mais
c'est pas drôle. Assez, donc.
Mais du coup est-ce que ce sera vraiment quatre points de vue différents sur une même tranche de vie? Est-ce que ce sera quatre jeunesses différentes? Je sais pas.
Ouais, c'est une bonne question. Connaissant Mendes et son amour pour les dispositifs très formels, moi je vois vraiment venir le quatre points de vue sur un même événement.
Ouais.
Ce qui peut être intéressant, franchement, à cette échelle, sur probablement un gros budget, des figures aussi importantes. Encore une fois, pour une fois, je pense que Tu peux reprocher à Mendes ses dispositifs formels et je suis le premier à le faire. Mais là, ce qu'on cherche dans le cadre des biopics, c'est d'avoir quoi que ce soit qui dépasse le côté un peu voyeuriste fiche Wikipédia oui. dont on a parlé jusqu'ici. Et si ça passe par un gros délire formaliste, bah c'est toujours mieux
oui,
que
oui.
une sorte de vieille récupération opportuniste de leur histoire, quoi.
C'est vrai.
Donc pourquoi pas finalement, tu vois. Et ensuite, bah, y a les films qui ont été annoncés il y a un paquet de temps, mais dont on sait pas grand-chose. Mais vu que tous ces films qui datent des années 2000, parfois dès le début de leur pré-production, sont récupérés par les studios à l'aune du succès de Bohemian Rhapsody, mmh. peut-être qu'ils vont venir voir le jour.
Bah, y a Madonna qui est toujours annulée pour le moment, ce qui
ah
est
oui,
dommage.
C'est vrai.
Parce que
elle devait pas réaliser elle-même un truc comme ça.
Bah, en tout cas, derrière, oui,
ultime,
effectivement,
quoi.
Oui, réaliser.
Le niveau ultime de la connivence.
Certes. Alors certes, mais en même temps, c'est vrai que Madonna, c'est l'autre grosse évidence après Michael Jackson, tu vois.
Ouais.
Mais après, c'est pareil, c'est parce que je pense qu'elle est à fond derrière et que s'il se fait un truc, elle refuse que ça se fasse sans sa propre réal et que du coup, c'est pour ça qu'il y a toujours rien.
Mais... Je peux comprendre aussi, ça doit être assez dur de voir que ta vie, ton image, déjà quand t'es une artiste, ça doit arriver beaucoup de fois, mais là, sur un film qui retrace ta vie, que
oui.
ça t'échappe et que t'aies aucun contrôle dessus, aucun droit de regard, ça doit être quand même assez frustrant. Quand c'est la famille des proches, je trouve que c'est... lâcher un petit peu l'affaire. En fait, parfois, j'ai envie de dire laisser les gens porter leur propre regard. Quand c'est sur toi, ça doit être beaucoup plus compliqué.
Oui.
C'est pour ça que gros égo de Mariah Carey qui se serait immiscé dans le film.
Non,
je peux pas. Bon, Madonna, gros égo aussi.
Dans cette catégorie-là, je me dirais que sur Britney Spears, ce serait pas inintéressant. S'il le faisait bien, il s'appellerait Leave Britney Alone.
Oui. Alors déjà, j'ai pas encore lu, mais je compte acheter sa biographie et tout ça parce que voilà. Mais oui, non, je serais.
Non, mais c'est intéressant pour le coup. Elle, son parcours est. Intéressant, et il y a matière à justement s'intéresser à une petite partie de sa vie.
Mmh. Après, le truc, c'est qu'il y a eu déjà tellement de documentaires assez voyeuristes et qui s'interrogeaient jamais, en fait, sur leur nature voyeuriste. Ça, c'est des... Enfin, tu sais, au bout d'un moment, il y a eu je sais pas combien de documentaires quand il y a sa tutelle qui a été levée, quand il y avait tout le procès et tout. Et il y avait vraiment un documentaire, je sais plus lequel c'est, dans la masse, mais qui était assez lunaire, où en fait, ça suivait une groupe de personnes qui disaient elles-mêmes suivre tous les réseaux sociaux de Britney Spears, décortiquer où elle est, à quel moment, enfin, en gros, qui la stalk, quoi.
Ouais.
Et le documentaire se remettait jamais en question sur cette approche, genre sur son propre voyeurisme.
Ouais.
Et donc j'ai vraiment peur que ce soit ça exactement pour un spin-off, enfin un spin-off, pour un biopic, où au final, on la laisserait juste pas tranquille.
Et du coup, il y a aussi, encore une fois pas confirmé, mais l'ami Sir Ridley Scott qui aura un projet de film sur les Bee Gees depuis un paquet de temps.
Ok, oh, lâche les biopics Napoléon,
j'espère
en vrai.
Qu'il va pas le traiter comme Napoléon, parce que sinon.
Il va faire un crossover à un moment donné dans la version longue de Napoléon. Ça rejoint le début de la vie des Bee Gees.
Historique univers. C'est marrant parce qu'on en a pas parlé dans le côté formule franchise hollywoodienne, mais il y a vraiment le culte du caméo dans ces films qui est dingue. Il y a vraiment, je pense à Straight Outta Compton parce que j'ai revu il y a pas longtemps. Mais il y a un moment où il y a Tupac, et clairement ils l'ont mis parce que tu peux faire « Hey, c'est Tupac !» On dirait vraiment un caméo dans un film de super-héros. Et il y a ça dans tellement de ces films. Dès qu'en fait ils ont collaboré avec quelqu'un d'autre de connu de la même période, ils vont aller te caster un acteur pour une scène. Pour
c'est le
puisses...
Stan Lee, tu sais qui.
Ouais, non mais
c'est ça. Qui pop dans les films, dans Bohemian Rhapsody, c'est ça aussi. À un moment, t'as un des membres de Queen, je sais plus lequel, qui apparaît très rapidement. Mais bon, vu que c'est un membre de Queen, les gens passent pas en mode « Oh, mais c'est lui dont j'ai oublié le nom !»
Non mais voilà, t'as ça, et franchement, si un jour il pouvait faire un crossover comme ça entre tous les personnages, il le ferait, quoi, je pense. Et il y a le film sur Case Moon de Daltrey, qui est prévu depuis longtemps, et il a dit, je crois, il y a pas très très longtemps que ça a avancé, donc des Doors. Pourquoi pas. Voilà, je crois que j'ai passé à peu près en revue tout ce qui va se faire, et ça fait beaucoup.
C'est déjà bien, ouais.
Ouais, ouais. Ok, donc on est vraiment très enthousiaste, de toute évidence. Mais ça fait presque une heure qu'on parle, et comme d'hab, on n'a pas planifié grand-chose pour le site. C'est à se demander comment on arrive à pondre une demi-dizaine de dossiers par semaine, et au moins autant de critiques. Et en discutant, je me dis que ça ferait un sujet intéressant, si un jour on faisait vraiment notre podcast, histoire d'être un peu plus original, et de pas faire les traditionnels films de dinosaures, Marvel, DC, le réel hype du moment, et on aura probablement plus de succès qu'un podcast sur, je sais pas moi, la stop motion par exemple. Bien sûr, si on fait ça, faudra demander aux gens qui nous apprécient de laisser 5 étoiles et de nous partager sur les divers réseaux, sans oublier l'abonnement à Écran Large pour nous soutenir, la base quoi.
Bah ouais.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.